France Culture.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans notre conversation littéraire. Aujourd'hui, une émission consacrée à une ville monde, à la fois blessée et flamboyante, fragile et tenace, Beyrouth. Une ville que la littérature n'a de cesse d'interroger, de raconter, de reconstruire et qui est au cœur de deux ouvrages récents et singuliers, D'une rive l'autre de Dima Abdallah et Le génie de Beyrouth, une bande dessinée signée Selim Nassif au scénario et Léna Merej au dessin. Bonjour Dima Abdallah.
Bonjour.
Vous êtes née au Liban, vous avez grandi en France et vous avez publié plusieurs romans qui tissent les fils de l'exil, de l'identité, de la mémoire. Après Mauvaises herbes et Bleue nuit, vous publiez aujourd'hui D'une rive l'autre aux éditions Sabine Vespizer. Et bonjour Selim Nassif.
Bonjour.
Née à Beyrouth, vous êtes journaliste, écrivain et scénariste. Vous avez couvert le Proche-Orient pendant de longues années pour des médias francophones, tout en poursuivant une carrière d'auteur. On vous doit notamment Fou de Beyrouth, Oum en 1994, Un amant en Palestine en 2004, et plus récemment Le tumulte, couronné par le prix France-Liban. Avec Le génie de Beyrouth, publié aux éditions d'Argo, vous signez un scénario puissant, poétique, où le personnage de Beyrouth est incarné dans un geste entre ironie et mélancolie. Alors Selim Nassif, vous ne vous attendez pas du tout dans la bande dessinée, c'est votre premier scénario. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce passage au dessin?
En fait, je ne m'y attendais pas plus que vous. C'est-à-dire que la Maison de Culture de l'Islam, qui est une institution qui est dans le 18e arrondissement, m'a demandé de faire plusieurs soirées sur Beyrouth. Et donc, j'ai eu cette idée de raconter la ville en prenant comme personnage principal une rue. Et comment cette rue partait d'une situation de paix, de relative coexistence pacifique et même presque amicale, bascule dans la guerre. Et donc, c'était comme une performance accompagnée par des musiciens qui durait une heure. Et une fois que ça a été terminé, je me suis dit que je pouvais en faire un livre. Mais comme c'était oral, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, de transformer ça en un texte écrit. Et là, j'ai pensé à pas tout de suite à une bande dessinée, je pensais plutôt à un roman graphique. C'est-à-dire qu'il y aurait le texte et quelques illustrations. Donc j'ai cherché un dessinateur ou une dessinatrice et ça a pris beaucoup de temps. Je connaissais rien, ni au milieu, ni au dessin. Et j'en ai trouvé plusieurs de dessinateurs, mais un dessinateur qui est algérien dessine un épicier algérien. C'est simple. Il me fallait vraiment quelqu'un qui connaisse à quoi ça ressemble vraiment, Beyrouth.
D'autant plus que ce que vous décrivez n'existe plus en grande partie. Donc il fallait quelqu'un qui puisse imaginer ce que Beyrouth avait pu être.
Ou qu'il ait même pas imaginé, qu'il ait vécu. Il y a certains quartiers qui sont dans Beyrouth aujourd'hui qui ressemblent à ce que était Beyrouth. En tout cas, la partie de Beyrouth qui a été la plus démolie, c'est-à-dire l'ouest de la ville, alors qu'à l'est de la ville, il y a encore des maisons de 1940, 1950, qui sont encore debout, malgré l'appétit des agents immobiliers qui veulent tout détruire pour faire des tours. Bon, mais en tout cas, c'était ça l'histoire. J'ai trouvé cette Léna Merej, qui, elle, non seulement est dans la bande dessinée jusqu'au cou, mais qui promeut la bande, c'est-à-dire qu'ils ont fait une association qui s'appelle Samandal, qui encouragent, qui ont plein d'auteurs qui tournent autour et qui font du très bon travail, qui sont connus, même en France, parce que les gens à qui j'ai demandé conseil pour commencer m'ont dit mais ça c'est une bonne référence, Samandal, faut vraiment y aller.
Et donc, Samandal, c'est aussi une revue de bande dessinée très importante pour justement la culture de la bande dessinée naissante un peu dans le monde arabe depuis une vingtaine d'années maintenant.
Voilà, et donc on parlait la même langue d'une certaine façon, moi à l'écrit et elle au dessin et à la couleur. Je lui ai fourni des photos, parce que bon, j'en avais des personnelles, mais aussi des photos de l'époque que j'ai trouvées. Et on a commencé comme ça, progressivement, à monter. Et progressivement, c'est devenu une BD. C'est-à-dire que elle a ce talent de raconter, et moi, je me suis adapté. Elle s'est mise à inventer des choses en disant, mais pourquoi il n'y aurait pas telle situation? Pourquoi est-ce que tu ne raconterais pas les enfants qui jouent à la guerre pendant que les adultes font les enfants? Ce genre de choses qui a vraiment fait que le livre est devenu une création commune.
Ah oui, donc elle a aussi participé à l'élaboration du scénario.
Oui, oui, absolument. C'est-à-dire que, bon, évidemment, l'histoire, c'est celle que je raconte, moi, mais elle a enrichi, disons, vraiment de choses vraiment pertinentes et drôles. Et... Parce que le ton général de cette BD est quand même... Ça devient grave parce que la guerre arrive, mais tout au long, il y a toujours ce petit esprit un peu... que j'appelle justement le génie de Beyrouth.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce génie? Parce qu'on imagine vraiment un djinn, un peu un génie, comme si Beyrouth avait comme ça une personnalité qui paraîtrait un peu dans les airs, oui, mais aussi mais... le génie au sens d'esprit des lieux. C'est-à-dire essayer de retrouver ce que pouvait être, ou peut-être encore aujourd'hui, l'essence de la ville.
Oui, c'est-à-dire que si jamais on racontait l'histoire d'un pays qui, depuis 50 ans, vit une guerre civile terrible, vit... une corruption terrible, etc., ce serait que sinistre. Or, quand on va au Liban, à Beyrouth en particulier, on réalise que c'est vrai qu'il y a ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui n'arrête pas de rebondir, qui, même dans les situations dramatiques, trouve un moyen et de rire et de passer à autre chose, et de... quelque chose de très particulier, comme ça, effectivement, comme un djinn qui anime les gens et que j'espère avoir réussi à mettre en scène.
Et donc, le génie de Beyrouth, là, c'est le premier volume, la rue de la fortune de Dieu. Combien de volumes avez-vous prévu et comment est-ce que vous avez envisagé le projet en plusieurs parties, en fait? Ou alors, c'est juste parce que c'était trop long pour faire un seul livre?
Non, c'est-à-dire que c'est une autre époque. La BD se passe au tournant des années 75, parce que 75, c'est le début de la guerre civile. Donc, on part d'une situation pacifique à une situation de guerre. Ça finit... quand la guerre est installée et que le quartier est sur le point d'être détruit, la rue en elle-même, la rue Rizkalla, que j'ai traduit par la rue de la fortune de Dieu, et le livre s'achève là. Nous retrouvons un des personnages du premier tome dans le second, qui se passe en 82, au moment de l'invasion israélienne du Liban et du siège de Beyrouth qui a duré 3 mois.
Et alors, il se trouve que 1975, le début de la guerre civile libanaise, c'était il y a presque exactement 50 ans. On se souvient de ce mois d'avril 75. Est-ce que ça aussi, ça a joué l'anniversaire dans l'écriture du texte?
Non, je n'y ai pas pensé du tout. Puisque la performance que j'ai faite, c'était il y a 4-5 ans déjà. J'ai mis beaucoup de temps à mettre ce projet à exécution.
Alors, la rue de la fortune de Dieu, où se trouve-t-elle? Est-ce que vous pouvez nous décrire dans Beyrouth la situation, voilà, comme vous le faites au début de l'album, la situation de la rue de la fortune de Dieu?
Voilà. C'est-à-dire que, à mon avis, ce génie de Beyrouth ne vient pas de nulle part. Il vient du fait que le Liban, c'est deux montagnes, l'une qui s'appelle le Mont Liban et l'autre l'Anti-Liban. Sans rire, c'est comme ça. Et c'est un pays qui est comme condamné à s'entendre et à se déchirer. Comme ces deux montagnes, ils le disent. Donc les gens, les minorités de toutes les régions sont venues se réfugier dans ces deux montagnes. Elles étaient obligées de coexister, donc de trouver un moyen de s'entendre. Mais en même temps, elles se méfiaient tellement les uns des autres que régulièrement, elles se tapent sur la gueule. Cette guerre civile qui a commencé en 75 rappelle une autre qui a eu lieu en 1860. Donc c'est quelque chose de constitutif. Bon, c'est très désagréable d'être comme ça, de vivre aux aguets, d'être toujours menacé, ou d'avoir en tout cas le sentiment d'être menacé. Mais ça crée une agilité d'esprit, ça crée un humour, ça crée toutes ces choses qui sont, à mon avis, les composantes de ce génie de Beyrouth. C'est-à-dire que quand vous vivez dans une société qui est monolithique, qui est entièrement musulmane, ou entièrement chrétienne, ou entièrement juive, ça provoque une paresse de l'esprit, quand même. Alors que quand on est tout le temps en train de regarder à gauche et à droite, à entendre 5 langues à la radio, à savoir qu'Israël est aux frontières, à savoir que la Syrie, tout ça crée une espèce de démulation, inquiète, certes, mais quand même extrêmement vivante et inventive.
Alors quand l'album s'ouvre, le génie de Beyrouth, on découvre donc cette rue de la fortune de Dieu, ce centre-ville de Beyrouth, parce que cette rue est à la fois extrêmement centrale, mais elle est en même temps...
C'est-à-dire qu'elle est en bordure du centre-ville, elle est entre le centre-ville et la mer. Et la mer, c'est les grands hôtels, c'est le tourisme, c'est les cabarets où il y a des filles, voilà. Donc c'est cette situation d'une toute petite rue, absolument modeste, qui est entre les deux, et qui sent les deux côtés. C'est-à-dire que quand la guerre va éclater, elle va éclater parce que c'est le centre-ville qui va être dévasté le premier, parce que c'est l'endroit où on s'entendait, où on faisait des affaires, où on avait des relations entre différentes communautés. Mais donc la guerre était tout de suite menaçante. Or, cette rue, elle était mélangée de fait. C'est-à-dire qu'il y avait un coiffeur musulman qui vendait des cigarettes, un teinturier chiite qui servait tout le monde, un boulanger musulman sunnite, deux épiciers, l'un chrétien, l'autre musulman, et une impasse au bout de laquelle il y avait un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Princesse, qui logeait des artistes. Ces artistes, c'est le nom...
Alors, il faut dire le nom libanais, les artistettes. Ils sont quand même aussi un des personnages très importants du texte, et tout de suite, c'est aussi convoquer une mythologie, parce qu'il faut dire ce qu'étaient ces artistes. Péjoratif quand même.
Oui, c'était des filles qui travaillaient dans les cabarets du bord de mer et qui logeaient là et qui rentraient toutes les nuits à 14 du matin complètement sous, qui étaient vraiment regardées avec beaucoup d'animosité par les femmes mariées en voyant leurs amis zioter là et les ados qui étaient absolument fascinés par ces filles qui étaient très fardées, très maquillées, très court vêtues. Mais tout ça faisait un monde qui est vraiment celui que moi j'ai connu quand j'étais gamin.
Oui, parce que c'est la question que j'allais vous poser. Cette rue, la Fortune de Dieu, est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'elle existait telle qu'elle, en tout cas ?
Elle existait absolument telle qu'elle. Et donc, comme dans la BD, on découvre progressivement les différents personnages, c'est-à-dire un tel habite là, en face il y a ceci, il y a un gamin à vélo qui aime la petite jeune fille du deuxième, etc. Et il y a une de ces maisons, de deux étages, où il y a une famille juive au premier, qui était la mienne, en fait, et une autre famille au rez-de-chaussée, propriétaire de l'immeuble, dont les enfants vont devenir miliciens phalangistes. Voilà. Et donc, ma famille à moi, ou les personnages qui sont dans cette maison, n'apparaissent que incidemment dans le cours du récit. C'est pour ça que j'ai voulu que ce soit la rue qui soit le personnage principal, et pas du tout cette famille-là ou quelqu'un qui me ressemblerait. Pas du tout, en rien. Ceci dit, j'ai vécu cette rue exactement comme je la décris. C'est-à-dire que les deux épiciers étaient là, les...
Le teinturier chiite.
Le teinturier chiite, qui a emmené mes parents, qui les a aidés à fuir et à prendre l'avion quand la guerre a éclaté. Tout ça est vrai, mais j'ai essayé de raconter ça avec une certaine distance. C'est-à-dire pas du tout sur un ton autobiographique.
Alors, une rue, c'est par définition le collectif, c'est l'espace commun, c'est là où les gens se mélangent. Et toute la première partie du génie de Beyrouth, c'est de montrer comment est-ce que ce collectif, ce mélange fonctionne jusqu'à un certain point où il ne fonctionne plus. Alors qu'est-ce que c'est que justement l'avant-guerre pour vous ? Parce que il y a bien un moment où déjà la guerre est dans l'avant-guerre. Et la vraie question quand on lit les descriptions paradisiaques de ce Beyrouth des années 70, riche, libéral, extrêmement attirant vu du dehors, où on a des artistes de toutes sortes, pas uniquement les artistettes, mais aussi des concerts, une certaine joie de vivre. Pourtant, là, on sait, puisque on lit l'histoire, que la violence, elle est déjà là, elle est déjà là en germe. Et qu'est-ce que c'est pour vous l'avant-guerre, justement ?
C'est-à-dire que, par exemple, vous dites paradisiaque. C'est vrai que c'était paradisiaque, mais c'est vrai qu'il y avait comme une menace invisible qui planait au-dessus. On voulait pas trop la voir parce qu'on avait envie de vivre agréablement, et on vivait agréablement. Il n'y avait pas de déni, mais on savait que dans certaines circonstances, ça craquerait. Les rapports entre les gens très différents qui habitaient cette rue étaient absolument cordiaux, mais on ne pourrait jamais dire amicaux. Ils n'allaient pas les uns chez les autres, ils ne se rendaient pas visite. Ils étaient très polis, ils se faisaient des compliments, il n'y avait pas de problème et tout. Mais l'amitié, c'est la famille, ce n'est pas les voisins. C'est comme ça, dans ce milieu-là. En fait, dans la grande bourgeoisie, ce n'est pas le cas. Dans la grande bourgeoisie, les gens pouvaient très bien être amis. Mais dans ce milieu d'une rue un peu modeste, avec des petits et des tout petits moyens bourgeois qui vivaient là, il y avait une méfiance comme ça, un peu invisible, parce qu'en réalité, tout avait l'air d'aller bien.
Mais quand même, et encore aujourd'hui, le début des années 70, les années 60-70 sont vues un peu comme un âge d'or auquel on aime toujours revenir dans la description qu'on peut faire du Liban.
Oui, absolument. C'était vraiment un âge d'or. Et moi, un jour, j'ai écrit un non-lieu, mais délicieux. C'est-à-dire, ce pays était, on ne savait pas très bien comment il tenait debout, hein. Avec toute cette pression autour, avec les guerres, les révolutions, qui ne rentraient pas, qui s'arrêtaient aux frontières. Et donc, on vivait très bien. On avait un casino du Liban, on avait toutes sortes de choses fort agréables. Mais on savait bien qu'il y avait une dictature terrible en Syrie. On savait très bien qu'Israël était très agressif. Tout ça était comme mis dans un deuxième étage du cerveau.
Céline Nassib, dans Le génie de Beyrouth, ce qu'on voit très bien, c'est qu'il y a aussi ce qu'on ne veut pas voir, justement, que vous montrez quand même sur une planche, ce sont les Palestiniens. Et là, on est dans le monde du gris, de la misère, de l'extrême violence faite à ce peuple qui est en même temps partout présent dans Beyrouth.
Pas partout.
Non, justement, voilà.
Pas partout. Vraiment, mis dans un quartier en bordure de la ville, c'est-à-dire dans le sud, la banlieue sud, qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas voir. Bon, les politiques font des déclarations en disant la cause palestinienne, etc. Mais la réalité, c'est qu'on ne voulait aucunement tenir compte d'eux. Mais comme ils étaient vraiment dans la ville, quoi, c'est une banlieue extrêmement proche, ils étaient comme une bombe à retardement dans la ville. D'ailleurs, c'est ça qui va faire exploser. C'est ça qui va être le déclencheur. Alors maintenant, toutes les versions disent oui, c'est eux qui sont responsables de la guerre civile. C'est vrai certainement qu'ils ont joué un rôle dans ce déclenchement. Mais une fois qu'ils sont partis, en 82, la guerre a continué jusqu'en 90. Donc ça va, c'est pas. Les causes sont multiples. Donc la seule chose qu'on peut vraiment suivre comme ça, pas à pas, c'est l'histoire telle qu'elle se passe au ras des pâquerettes.
Cette forme de micro-histoire que vous racontez très très bien à travers le dessin et des situations simples, où on voit que, petit à petit, c'est l'endoctrinement, tout simplement pseudo-militaire, qui passe d'abord par les scouts. On voit très bien ces trois enfants, Roland, Riri et Roro, qui vont devenir, petit à petit, des miliciens, fabriquer cet ordre milicien qui va gouverner Beyrouth dans sa partie est, pendant les 20 années qui vont suivre.
Absolument.
Donc c'est un peu regarder à l'échelle de la rue permet de voir
oui,
ça.
Oui, c'est-à-dire qu'on s'intéresse un peu, on dit les miliciens comme s'ils venaient de nulle part. Alors que moi, je les ai montrés quand ils sont gamins. C'est-à-dire que c'est des gamins qui jouent à la guerre avec des fusils de bois quand ils ont 12 ans et qui progressivement, à cause de la situation du pays, commencent à se croire, commencent à avoir des armes. Soudain, ils ont des uniformes. Soudain, ils ont un petit pouvoir dans la rue. Soudain, ils ont un grand pouvoir. Soudain, ils deviennent le pouvoir dans la rue. C'est, je veux dire, cette progression très, très... Mais quand même, quand ma mère, par exemple, les regardait, ils étaient à ses yeux des gamins. Ils n'étaient pas du tout les miliciens aguerris qu'ils croyaient être.
Oui, mais justement, ce rapport à la violence en germe, c'est un peu aussi le problème de la rue de la Fortune de Dieu, c'est que personne ne veut la regarder en face, personne ne veut voir cet ordre en train de, ou ce système de fonctionnement en train d'être détruit.
Oui, personne ne veut le voir parce que tout le monde veut vivre tranquille, tout le monde veut croire que les enfants vont à l'école, tout le monde veut croire que l'avenir, malgré tout, est possible. Cette pulsion de vie qui veut écarter tout ce qui peut l'empêcher, tout ce qui peut la détruire. Il y a quelque chose de poignant dans cette dichotomie entre ce qu'on voit en train d'arriver et qu'on ne veut pas voir.
Et pourtant, voilà, tout se brise, mais alors pas de la même façon pour tout le monde. Il y a justement les ressentiments anciens qui sont déjà présents, deviennent un moteur un peu aussi de la violence, comme les affaires de loyer dans un immeuble, ou la volonté de pouvoir qu'on peut avoir sur ce qui nous entoure.
Oui, oui, cette histoire de loyer, c'est très significatif. La famille chrétienne qui est propriétaire de l'immeuble, à cause d'une loi héritée de la France, c'est les loyers bloqués, alloués à la famille juive qui habite au-dessus, un loyer absolument dérisoire. Et ils réalisent que, d'après la loi, ils n'ont aucun moyen de les déloger. Et donc, ils commencent à espérer, à partir du moment où leurs enfants deviennent miliciens, que dans la loi nouvelle, c'est-à-dire la loi des miliciens, ça va être plus facile de les faire déguerpir. Et donc, ce petit conflit de loyer, comment dire, est habillé par la nouvelle situation de guerre. Et on comprend qu'un conflit qui n'a rien à voir avec la guerre se met à évoluer parce que la situation de guerre crée une situation nouvelle. Et tout ça, la seule façon que j'ai trouvé d'en rendre compte, c'était de rester le plus près possible des intentions des uns et des autres et de la façon dont ils bougent. Parce que finalement, je me rends compte que les grandes analyses politiques ne touche pas les gens qui ne s'intéressent pas à la politique, tout simplement.
Salim Nassib, quand on prend l'histoire du début de la guerre civile libanaise à l'échelle de cette rue, on se rend compte aussi à quel point la guerre a déjà commencé autour, mais tout
pas
près,
là.
Mais pourtant pas là.
Voilà.
Et là, on continue à vivre encore quelques mois dans l'espoir qu'on ne sera pas touché par ce conflit qui est pourtant partout. C'est assez surprenant d'ailleurs, oui, de se dire qu'on se sent toujours un peu quand même protégé finalement par l'équilibre de la rue.
Mais en fait, ce qui se passe dans cette rue, c'est ce qui s'est passé pour tout le pays, puisque le pays voyait bien qu'il y avait des guerres autour, qu'il y avait des révolutions, des coups d'État, des dictatures, etc. Et il se disait, tant que c'est pas chez nous, ça va. Hein? Et la rue a fait la même chose. Tant que c'est pas chez nous, ça va. Il n'y a pas de problème. On va continuer à faire semblant.
Et ce dont on se rend compte aussi, c'est que même si la guerre va petit à petit briser un peu tous les équilibres et transformer toutes les façons de vivre, y compris l'amour, la façon d'aimer, la possibilité même de rencontrer finalement enfin la voisine du dessus, c'est-à-dire qu'il y a quand même un aspect parfois peut-être positif aussi dans les conséquences.
C'est grâce à la guerre que le petit soupirant qui a 15 ans, qui a un vélo sur lequel il fait la mariole, c'est parce que la guerre est là qu'il finit par pouvoir sauver la jeune fille et lui sauver la vie d'une certaine façon.
Mais on se rend compte que la guerre civile, finalement, elle a complètement transformé toutes les possibilités d'être socialement, dans la ville, entre soi. Tout ça a été complètement habité et détruit par la guerre. Ou en tout cas transformé.
Transformé, ouais, plus que détruit, ouais, parce que la vie est plus forte. C'est-à-dire que même quand il y a eu la guerre, même après, c'est-à-dire dans les années qui ont suivi la période de la BD, c'est des règles nouvelles qui s'instaurent, mais quand même qui permettent la poursuite de la vie. Même si c'est oppressant, même si l'ordre des miliciens est une horreur, même si plein de choses. Mais quand même, les gens continuent à vouloir vivre. Et ça, c'est un moteur formidable.
Et alors le moteur formidable de la rue de la fortune de Dieu, c'est aussi l'enthousiasme de certains de ces personnages qui font jusqu'au bout comme si de rien n'était et qui poursuivent leur travail au quotidien. Le boulanger, par exemple, qui essaye tant bien que mal de faire du pain. Le teinturier chiite qui continue à laver les vêtements et ainsi de suite.
Oui, et puis il y a un moment où, non, c'est pas que ça bascule, c'est que le teinturier chiite prend des risques pour sauver des gens, soudain. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui, on a l'impression, il fait juste semblant de continuer à vivre alors qu'il y a la guerre, et soudain il fait un pas où il prend des risques pour sauver des gens. Cet héroïsme-là n'était pas prévu au programme. C'est ça qui est formidable. C'est ça le génie.
Oui, le génie de Beyrouth qui...
Oui, soudain il se passe quelque chose en action. Voilà, soudain il se passe quelque chose qui n'était pas prévu et qui sauve.
Il y a des personnages très attachants dans cette rue, et notamment le couple formé par cette Marie et son mari maronite, qui sont drôles parce qu'elle rit tout le temps.
Tout le temps.
Et elle rit même de savoir que sa tombe, ils ont acheté deux tombes côte à côte avec son mari, et elle est très heureuse de ça. Ça la fait beaucoup rire de penser.
Mais elle riait. Mais c'est-à-dire qu'ils étaient à l'entrée de l'impasse qui mène vers l'hôtel où logeaient les artistes, les filles, et son rire s'entendait dans la moitié de la rue. Le soir, moi je me souviens que j'avais 7-8 ans, je m'endormais en entendant son rire. C'était vraiment le rire le plus célèbre du coin.
Mais justement, est-ce que le génie de Beyrouth, c'est pas aussi le rire, justement?
Oui.
Cette possibilité, même quand tout va mal, de trouver des motifs,
oui,
de rire.
C'est tout à fait ça. En fait, je dis le génie de Beyrouth, mais en réalité, ce génie-là, il doit être un peu beaucoup dans plein d'autres endroits, des villes en guerre. Parce qu'au fond, la guerre, elle rend extrême quand même les nécessités de vivre, de trouver des solutions. Ça rend agile, malgré le malheur. Hein. Et donc, je trouve que dans des situations comme ça difficiles, il y a toujours quelque chose, des étincelles qui arrivent, qui ne sont pas là en temps de paix, où tout le monde est tranquille.
La rue de la fortune de Dieu à Beyrouth va être donc rattrapée par la guerre qui est vraiment tout autour pour le coup, puisque cette fameuse bataille dit des hôtels qui se livrent juste à côté de cette rue. Ensuite, elle va être pillée plus ou moins en même temps que le reste du centre-ville et elle va finalement disparaître. Est-ce que c'est avec la rue de la fortune de Dieu une forme de mixité, justement, de façon d'être ensemble? Alors, vous l'avez dit, peut-être sans se rendre visite, mais en tout cas de cohabitation dans l'espace même de la ville qui disparaît avec cette rue.
Oui, c'est vrai. C'est comme ça. C'est drôle, je disais tout à l'heure que les gens ne se rendaient jamais visite, sauf dans un cas, en cas de mort. Quand il y a un deuil, tout le monde vient. Chrétiens, musulmans, juifs, il y a un deuil. Soudain, tout s'arrête. Une autre convention s'impose. On rend visite aux endeuillés. C'est formidable, comme tous ces mécanismes-là, personne ne les a inventés. Ils sont. C'est comme ça que ça se passe.
Oui, cette façon de vivre avec l'autre et d'être présent à l'autre dans les moments, disons, les plus graves de la vie. Parce que vous parlez du deuil, mais aussi les naissances.
C'était les naissances, les mariages, pareil. Voilà, c'est ça.
Et les mariages étaient aussi...
Et on sent que c'est des traditions qui viennent de très loin. Pas cette génération-là qui les a inventées.
Salim Nassib, est-ce que vous pensez que le génie de Beyrouth, ça pourrait être une façon de reconstruire justement cette mixité ailleurs, qu'elle soit détruite et qu'elle se reconstruise d'une autre façon?
Oui, par exemple, bon, un moment, quand j'étais journaliste, je continuais à aller venir longtemps, jusqu'en 85, avant de commencer à écrire des romans. Et puis, à partir de la fin de la guerre civile, quand j'ai vu que les miliciens avaient mis des costumes pour gouverner le pays, ce qu'ils continuent à faire jusqu'à aujourd'hui, leurs enfants, leurs gendres, etc. Bon, je me suis dit, bon, c'est fichu, il n'y a pas de problème, ils ont gagné, n'en parlons plus. Et soudain, en 2019, c'est il y a quelques années, je vois cette jeunesse qui se soulève en disant, on veut tous les mettre à la poubelle. On se dit, mais attends, parce que j'ai pris le premier avion. C'est le génie de Beyrouth qui n'est pas mort, qui revient. Bon, la suite de l'histoire, ce soulèvement-là, la Saour, la révolution, a été écrasé et réprimé. Bon, mais quand même... Ça veut dire que ça voyage sous terre et que ça refleurit à un moment.
Est-ce que ça pourrait être justement peut-être un autre volume du génie de Beyrouth que les révolutions? Parce qu'il y a aussi dans l'histoire du Liban et l'histoire de Beyrouth comme capitale du Liban, un génie de la révolution qui est aussi extrêmement présent et dont vous avez déjà parlé.
Oui, 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 c'est vrai. On va voir.
Nous venons d'entendre la chanteuse libanaise Fairouz chanter Bint Shalabia, un tube signé par les frères Larbani. Dima Abdallah, dans D'une rive l'autre, on cherche à échapper à Fairouz plutôt, marqueur absolu d'une libanité plutôt honnie par les personnages. Le texte est marqué par une grande douceur mélancolique et en même temps une tension. Et est-ce que justement pour vous, Fairouz, c'est un peu de ce Liban qui à la fois on adore, mais qui en même temps rappelle trop oui. de souvenirs de l'histoire du Liban?
Oui, tout à fait. Ce Liban, cette espèce de beauté increvable, en fait, cette poésie increvable qui nous ramène toujours à ce qu'on voudrait quelque part enterré parce que c'est trop douloureux et que ce serait tellement plus facile. Moi, pour moi, par exemple, qui est à Paris depuis 35 ans, ce serait tellement plus facile d'oublier ces 12 premières années de ma vie qui se sont déroulées en pleine guerre civile. Je suis née pendant, je suis partie de Beyrouth pendant la guerre. Et on retrouve dans mes trois romans ce thème vraiment récurrent qui est cette espèce de tentative d'oubli qui est évidemment vouée à l'échec, parce que le lecteur n'est pas dupe, enfin je veux dire personne n'est dupe, c'est quelque chose qui est complètement perdu d'avance.
Alors, Dima Abdallah, d'une rive l'autre, c'est le récit que nous fait un narrateur sur plusieurs moments du temps et où justement on va explorer peut-être une autre façon d'être au Liban ou d'être avec le Liban, de redécouvrir un peu ce qu'on porte en soi. Je suis ailleurs. C'est un des mots de ce narrateur et ça pourrait un peu résumer d'une rive l'autre, c'est-à-dire cette espèce d'altérité qui est toujours là et dont on ne sait pas très bien toujours quoi faire.
Oui, tout à fait, mais ça illustre aussi surtout le thème de la marge, ce être ailleurs, se sentir ailleurs, qui n'est pas seulement dû, comme dans mes deux premiers romans, à un exil géographique ou quelque chose comme ça. Finalement, ce narrateur, il n'a rien à voir avec le Liban.
Non. Bah,
Je veux dire, vraiment, enfin, il ne connaît pas son père. Il sait juste que son père est libanais. Il n'a jamais mis les pieds au Liban. Il ne parle pas arabe. Il a la malchance d'être tombé sur une voisine de palier qui est libanaise. Mais je me suis posé la question et il la pose lui-même à un moment dans le roman du pourquoi. Pourquoi est-ce que cette mémoire-là existe, demande à exister malgré tout?
Dima Abdallah, c'est un peu comme si de toute façon toutes nos existences s'organisaient un peu presque d'elles-mêmes autour de ce que nous sommes sans le savoir.
C'est oui, je pense.
Il y a un réseau qui se fabrique comme ça autour de nous. Et, en tout cas, c'est le cas de ce narrateur. On a l'impression que tout ce qu'il va croiser le ramène à ce mystère qu'il cherche à percer.
Tout à fait. Et c'est pas un mystère qu'il cherche à percer, c'est un mystère qu'il cherche à fuir. Mais c'est
oui,
là.
C'est juste, oui.
Mais c'est là. Je veux dire, ça existe. Et ça existe d'une manière tellement forte qui est due, justement, cette force est due à l'absence totale. Moi, je l'ai vu autour de moi. Qui est due à l'absence totale, justement, de matériel à mettre sur cette mémoire-là, c'est-à-dire une langue, un père, un ami, que sais-je, un voyage au Liban, peut-être, qu'il aurait fait. Il a rien. Il a rien vécu de tout ça, il ne possède rien de tout ça. Et c'est comme une espèce de gouffre, finalement, qu'il habite. Il est habité par un gouffre, il ne veut surtout pas savoir qui est son père, le pourquoi de la violence de son père, le pourquoi du malheur de sa mère. Il ne veut absolument pas qu'on lui raconte. Il ne veut pas qu'on lui raconte ni Beyrouth ni autre chose. Et pourtant, sur un coup de tête, une nuit, il va décider, une fameuse nuit, je laisse peut-être le lecteur le découvrir par lui-même, mais il se passe quelque chose de très particulier dont je peux parler, hein, qui fait que le lendemain, il est déjà à une agence de voyage pour partir pour Beyrouth.
Alors, Dima Abdallah, il y a ces figures, ces personnages très importants autour du narrateur qui fabrique son monde avant que celui-ci s'ouvre justement vers Beyrouth. C'est Leïla, Elias et c'est sa mère, vous venez de l'évoquer.
Oui.
Cette mère qu'il voit à la fois comme quelqu'un d'extraordinairement proche, puisqu'elle est évidemment à ses côtés tous les jours, mais aussi mystérieuse et peut-être blessée dans une forme de violence qu'il ne comprend pas vraiment.
Il comprend très bien cette violence-là et il comprend très bien la blessure de sa mère. C'est un hypersensible, c'est un hyperperméable. Donc il comprend très très bien les choses et les personnes autour de lui. Cette relation mère-fils est complexe parce que finalement les rôles sont un peu inversés, surtout au début du roman. Et puis il y a un moment où cette mère-là, quand elle le sent en danger, ressuscite. Et j'utilise un vocabulaire animalier à ce moment-là. Il dit « elle est venue me chercher avec les crocs », comme si j'étais au bord d'une falaise et que j'allais basculer. Et elle a sorti les crocs, elle est venue me ramener comme un petit lionceau. Donc il se réveille un matin et elle lui dit, parce qu'il a basculé dans du deal pour ramener de l'argent, il a basculé dans des choses qui lui ressemblent absolument pas d'ailleurs. Et elle lui dit avec une langue d'ailleurs qui est assez drôle, écoute, je les connais tous, je sais du combien ils chaussent, donc soit tu arrêtes tout de suite. Il la voit toute apprêtée, toute fringante, et donc ouais, elle va le chercher de là où on ne revient pas. Et c'est une relation très belle, je trouve, parce que il prend soin d'elle. Et quand il revient de Beyrouth profondément blessé, lui, et qu'elle prend soin de lui jusqu'au moment où elle en peut plus, le moment précis où elle en peut plus, il le sent, il se lève immédiatement de son lit, il prend sa douche, il s'habille et il dit « je ferai en sorte de fonctionner, de marcher, même si mon cœur ne bat plus ».
Dima Abdallah, d'une rive l'autre, c'est justement aussi un roman sur l'apprentissage des mots. Comment est-ce qu'on peut d'abord retrouver son corps et mettre des mots aussi sur les sensations, ce qui vous entoure, justement un pays nouveau. Et c'est aussi les mots de l'amitié. Comment est-ce qu'on peut raconter une histoire d'amitié avec ce personnage aussi assez magnifique qui s'appelle Elias?
Les mots sont extrêmement importants dans ce roman, encore plus que dans les deux autres, je trouve. L'importance qu'il accorde aux mots depuis qu'il est tout petit est vraiment majeure parce qu'il passe son temps à lire le dictionnaire pour connaître le sens des mots, parce qu'il en mesure le poids, il en mesure l'importance très tôt. Il parle la langue du quartier, mais cette langue du quartier, elle va évoluer très vite. Et finalement, on va avoir presque trois langues dans ce roman. Il y a trois grandes parties, et finalement, il y a presque trois langues. Parce qu'à la fin, on finit avec vraiment une langue maîtrisée, poétique, complexe. Et on commence avec la langue, la voix d'un gamin de 12 ans qui vit dans un quartier difficile et qui a beau être singulier et hypersensible et certainement très précoce et de ce quartier-là. Et d'ailleurs, il le réclame et il l'assume et il le revendique presque.
Mais les mots, c'est aussi une façon... C'est la conséquence, en tout cas, des mots nouveaux qu'il apprend. C'est aussi une forme d'exclusion. Il apprend des mots dans les dictionnaires, mais il ne les prononce pas. Vous écrivez, plus je les aime, les mots, et moins ils sortent de ma bouche.
Oui, alors ça, c'est pas seulement pour ne pas se faire exclure. Il dit que parfois, il y a des mots, ça lui échappe, ça sort de sa bouche, dans le mauvais contexte, avec les mauvaises personnes, parce qu'il en apprend tellement que ça sort. Mais ça, c'est encore autre chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans mon écriture de manière générale. Dans mes deux précédents romans, c'est la même chose. C'est le silence. C'est le silence pour les amoureux des mots. Et oui, évidemment que plus on aime les mots et moins ils sortent de notre bouche, je pense. En tout cas, pas sous une forme, comment dire, de conversation.
Sous quelle forme alors ?
Je pense qu'ils sortent sous forme écrite, poétique, ou sous forme de poème, de roman, de... Je ne sais pas. En tout cas, chez moi, ça se passe comme ça.
Mais pour le narrateur du livre, en tout cas, le mot, la possibilité des mots, c'est aussi justement un voyage vers la poésie, vers aussi mettre des mots sur un
Exactement.
Pays différent, la possibilité de rencontrer l'autre, justement.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs... ce premier voyage à Beyrouth va le bouleverser complètement. Enfin, il va en tomber malade, en fait. En fait, il va vraiment littéralement tomber malade. Et il y a ce personnage merveilleux que moi, je trouve merveilleux. J'en parle comme si c'était pas moi qui l'ai écrit. qui est Madame Hind, qui est la première personne qu'il rencontre, finalement, qui prend... autant soin de lui.
À Beyrouth, d'ailleurs.
À Beyrouth, qui l'épargne et qui va lui raconter le pays, mais qui va lui raconter le pays à sa manière à elle, en prenant en compte son extrême souffrance à lui et en l'épargnant de tout ce qui peut faire mal. Et c'est une espèce d'exercice de style qui est assez difficile. Et il dit que c'est une sorcière, c'est une magicienne. C'est-à-dire qu'elle sait très bien, elle l'a très bien cerné. Elle connaît les grandes lignes de son histoire. Enfin, je veux dire, elle sait qu'il a un père libanais qu'il ne connaît pas, qu'il vient à Beyrouth sans savoir lui-même encore vraiment pourquoi. Et qu'il est complètement possédé par des fantômes... qui le hante et qui le bouffe de l'intérieur et qu'il n'a pas envie de savoir, qu'il n'a pas envie qu'on lui raconte parce qu'il sait déjà. Et ça, je voudrais m'arrêter deux secondes sur ça. C'est sur ce « je sais déjà ». C'est comme s'il savait déjà beaucoup de choses. Et je parle de cette mémoire-là, finalement. Je parle de cette mémoire qui est non vécue, mais qui existe en nous. Et qui se transmet de génération en génération comme ça, qui sort de je ne sais où parfois. Et c'est un grand mystère pour moi et je pose la question et je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire lui-même, il pose la question dans son adresse à Leïla, dans le troisième chapitre. Il dit mais jusqu'où ça va continuer ? Combien de générations ?
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Bandala, c'est aussi la possibilité de faire naître une forme de mémoire du corps, c'est-à-dire quelque chose qui passe par le retour de sensations qu'on a déjà connues et oubliées, ou en tout cas qu'on imagine telles. Et c'est ça qui est très beau aussi dans ce roman, c'est comment les mots eux-mêmes cherchent à fabriquer ou à faire revenir à la conscience ce que le corps a su de toute éternité.
Tout à fait. Tout à fait. Et son corps, même s'il n'a pas lui-même poussé, si j'ose dire, comme une plante dans le terreau libanais, son corps, il est à moitié de son géniteur libanais. Et son corps se souvient, oui. Je crois que son corps se souvient et il se souvient très fort jusqu'à le rendre malade et jusqu'à le faire, chuter.
Oui, souffrir, retrouver, retomber dans une souffrance extrêmement intense.
Tout à fait.
Mais qui est peut-être décuplée justement par tout ce qu'il a vécu, c'est-à-dire décuplée par le retour de cette mémoire, de ces sensations, de ces odeurs, alors qu'il ignorait même qu'il les portait.
Il ignore complètement. Il n'a absolument rien à voir avec le pays, et pourtant il a tout à voir avec ce pays-là, et il a tout à voir avec ce père-là. parce que d'une rive l'autre, ça peut être compris comme d'une rive à l'autre. Et tout à l'heure, je vous ai remercié parce que vous étiez le premier en prononçant le titre à mettre une virgule d'une rive l'autre. Et il y a bien une autre rive, et il y a bien un autre. C'est-à-dire cet autre-là, ce père-là, il existe.
Il y a bien une autre rive, mais les deux sont liés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une rive l'autre, c'est-à-dire qu'on est obligé de passer de l'une à l'autre.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Et Dima Abdallah, la mémoire de ce narrateur, c'est aussi bien sûr les sens, et notamment le goût des plats de Madame Hind, l'odeur de la teinture d'iode, on sent la présence de la mer, il y a aussi une réalité extrêmement sensorielle et même sensuelle dans son contact avec le monde. Oui, mais aussi et surtout avec Beyrouth, là, dans ce cas-là, vrai. C'est-à-dire que le choc, c'est aussi comment les sens sont transformés par l'expérience.
Alors, je pense que Beyrouth agit comme une loupe, mais je crois surtout que ce personnage, mes personnages en général, mais ce personnage en particulier, il en parle d'ailleurs de cette fameuse loupe. C'est le terme exact que j'utilise. Il dit « je ressens tout trop fort ». Et au-delà d'une hypersensibilité, je crois que c'est un poète, en fait. Je crois que c'est un poète et qu'il voit les choses et qu'il les ressent, qu'il les sent à travers ce prisme-là de la poésie. Et ça change tout.
Vous écrivez, Dima Abdallah, « J'écris les petits corps qui se souviennent des terres chaudes, baignées de sang et de cendres, des villes détruites, des royaumes perdus. » C'est justement ça, c'est à la fois la sensation et puis en même temps le désir de, par la littérature, retrouver ces royaumes perdus.
Oui, et l'écriture s'impose à lui comme une obligation. Il ne se met pas à écrire parce que il a lu un poème qui lui a plu et...
Mais aussi, c'est la rencontre, ou en tout cas la volonté, le désir d'aller vers Leïla, qui représente un peu pour lui, justement, la poésie.
Qui n'existe pas. Leïla, elle n'existe pas. Enfin, je veux dire, jusqu'à l'épilogue, Leïla, elle est complètement... c'est un peu, comment dire... C'est un peu comme un soleil, enfin, quelque chose d'aveuglant et qui illumine, en fait, une partie de sa vie. Qui l'aide à survivre. C'est comme une lumière au loin et en même temps un vrai amour, mais un amour qui est maladif. Un amour qui est tellement fantasmé qu'il en devient maladif. C'est-à-dire que c'est des gosses qui ont grandi ensemble dans le même quartier. Il a toujours été amoureux d'elle depuis la nuit des temps. Mais quand l'adolescence arrive et que le désir arrive... Il dit, je voudrais me castrer. Enfin, je veux dire, Leïla, je l'aime trop pour la désirer, il dit. Donc, ce n'est pas du tout un amour, classique et raisonnable.
Mais classique, peut-être dans le sens de littérature classique, puisque Leïla, c'est quand même l'objet de désir du fou de Leïla dans la littérature classique arabe, qui est l'image de cet amour justement absolu, à tel point qu'il peut se réaliser en l'absence de Leïla, puisque Raïs, dans son désert, il aime tellement Leïla qu'il a même plus besoin d'elle.
Exactement. C'est exactement ça. Merci Mathias.
C'est pas moi, c'est le fou de Leïla.
Non, mais c'est tout à fait ça. C'est vraiment une évidence en fait que cet amour-là se réalise sans Leïla et que c'est un amour qui le porte comme s'il l'aidait un peu à traverser la vie. Et le roman est en trois parties, et la troisième partie est une adresse directe à Leïla, c'est-à-dire qu'il finit finalement en s'adressant directement à elle, et plus au lecteur.
Et elle devient voilà l'objet justement de la poésie en réalité. C'est un peu le chemin du narrateur, c'est aussi le chemin vers la littérature.
Alors je crois toujours, depuis toujours elle est l'objet de la poésie, il dit justement... qu'il a cherché désespérément dans plusieurs dictionnaires et dans plusieurs livres une définition du mot « grâce » parce que c'est un mot qu'il trouve merveilleux quand il a 13-14 ans Et il dit, mais non, enfin, je veux dire, toutes les définitions que j'ai trouvées sont nulles. Comment on pourrait définir un mot comme le mot grâce, qui a plusieurs sens d'ailleurs. Et il dit, la grâce, c'est Leïla. Et il a une révélation, une nuit, où il se dit, non, mais c'est pas les gens du dictionnaire, finalement, qui ont pu trouver une réponse à cette question presque obsessionnelle autour des multiples sens du mot grâce qui le hante comme ça. Il dit, ce sont forcément les poètes. Et c'est comme ça qu'il va à la bibliothèque, à la médiathèque, au rayon poésie, traîner avec son pote Elias. Le pote Elias traîne dans les fauteuils en lisant des BD, et lui dans les rayons en commençant à lire de la poésie, finalement assez tôt et assez bizarrement pour un gamin des quartiers pas plus éduqué que ça et qui va dans un collège moins que moyen, quoi.
Il faut dire justement quelques mots d'Elias, qui est quand même aussi un des objets du roman, ou en tout cas un des personnages extrêmement importants, parce que justement c'est comme dans ces personnages qui montrent à la fois ce qu'est l'amitié, mais qui montrent aussi des choses qui sont désirables ou pas pour le narrateur. Et il est pour lui vraiment un centre d'intérêt, un centre vital, en plus d'être un échange et une camaraderie.
C'est sa maison. Elias, c'est vraiment sa maison. C'est son refuge. Ils se comprennent sans se parler. Et ça l'arrange beaucoup parce que, justement, comme on vient de le dire, c'est un amoureux des mots. Donc, il est économe de mots et il aime pas parler pour ne rien dire. Et il dit que Elias est un bavard silencieux. C'est-à-dire qu'il sort des blagues quand il faut. Il rigole tout le temps. Il rigole en permanence alors qu'il est détruit de l'intérieur, Elias. Le lecteur le comprend. Mais il rigole de tout et il comprend surtout mon héros. C'est-à-dire que c'est un vrai ami. C'est une amitié extrêmement forte et c'est une perte immense qu'il va y avoir dans le roman parce qu'il va perdre Elias. La fragilité d'Elias, sa gentillesse, sa douceur, son empathie ne sont presque pas faites pour ce monde-là, en fait, finalement. Et certainement pas, elles ne sont certainement pas faites pour le contexte dans lequel il grandit et dans le quartier dans lequel il grandit. Donc, Elias finit par se faire avoir par un de ses prêcheurs géniaux qui traînent dans ces quartiers-là et on envoie des superbement brillants, je suis ironique bien sûr, dans certains quartiers. Et donc mon héros le voit comme ça, un jour, commencer à partir petit à petit devant ses yeux. Jusqu'à ce qu'un jour, ils adorent écouter de la musique ensemble. Ils adorent écouter de la musique ensemble et ils écoutent pas que du rap. Il dit, le collège a eu un bon côté, c'est qu'il nous a fait découvrir Brassens et Brel. Et il dit, deux lascars comme nous qui écoutent Brassens et Brel. Et oui, deux lascars comme nous qui écoutons Brassens et Brel. Parce que c'est pareil que le rap.
Dans les années 90, en tout cas, au moment de l'adolescence du narrateur.
Voilà, donc c'est de la poésie, et c'est pareil que le rap. Et pour lui, le rap vient de la poésie, comme Brassens et Brel sont des poètes. Et il y a Sète supplique pour être enterré à la plage de Sète, qui est leur chanson préférée, mais en même temps qui est une chanson qui leur fait très mal à tous les deux, parce qu'elle raconte quelqu'un qui a des origines simples, pas matériellement parlant, mais claires, je veux dire, qui a une maison, qui a une plage précise où il voudrait être enterré, qui appartient à un endroit, alors qu'il dit que tous ces immeubles clones là autour d'un petit parc, c'est un endroit où personne ne se sent chez lui finalement. Et
justement, Tim Ardalin, c'est ce qu'ils ont aussi en commun. Ils partagent cette non-histoire de l'endroit où ils se trouvent et puis le désir de s'en fabriquer une beaucoup plus réelle.
Oui, et quand Elias décide de devenir boulanger, il lui dit, j'ouvrirai mon affaire à Sète. Comme si c'était approprié la chanson Et que l'appel de la Méditerranée, comme s'il avait assumé l'appel de la Méditerranée. Parce que Elias, il dit, comme mon narrateur dit, Elias, son prénom, il vient bien de quelque part. Comme lui, il vient bien de quelque part. Donc, ils ont cette chose-là très forte en commun et ils vont prendre des chemins très différents pour faire taire la douleur. Et dans les deux cas, cette douleur ne va pas se taire. Et Elias va aller dans un chemin qui est assez extrême. Il va aller vraiment jusqu'à la perdition et jusqu'à la violence.
Oui, violence qui est quand même aussi suggérée, racontée plus que décrite, mais qui a un effet sur le narrateur qui change justement peut-être ses mots et sa façon d'écrire et qui le radicalise d'une autre façon justement peut-être ce narrateur.
Je crois que c'est la colère.
Oui, la colère. Voilà.
La colère, ouais. Je crois qu'il y a énormément de colère et il sait qu'il ne peut rien.
Dima Abdallah, d'une rive l'autre, c'est aussi justement le récit un peu en miroir de ce qu'on peut aller chercher de l'autre côté sur une rive et ce qu'on peut en ramener. Est-ce que vous croyez justement à cette possibilité finalement de trouver un équilibre entre une rive et l'autre, à cette possibilité d'être à la fois ici et là-bas?
Je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé, je me sens extrêmement libre, mais je ne l'ai pas trouvé et je porte... Je veux dire, de toute façon, il y a toujours de l'auteur dans ces romans et je porte ces obsessions-là qui sont celles de la mémoire, de l'exil. On pose souvent cette question de savoir si je me sens, après 35 ans de vie à Paris, encore libanaise. Et une question qui m'a particulièrement marquée, c'est est-ce que je me sens comme une enfant de la guerre civile ? Et ma réponse, c'est chaque jour, chaque heure, chaque seconde. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a une paix à trouver, mais moi, en tout cas, cette paix-là, je ne l'ai pas trouvée. Cet équilibre-là de se sentir, bon, bah, finalement, à moitié-moitié, j'adore Beyrouth, j'adore Paris, après tout, pourquoi ça poserait problème?
Et vous, Selim Nassib, alors, le mot de la fin, est-ce que vous avez trouvé justement cette rive et l'autre?
Non, mais vraiment, je trouve que Dima vraiment met le doigt là où vraiment c'est... Ça fait mal, en même temps, on comprend les choses. C'est très bien. Vraiment, j'aime beaucoup. Et cette place... ce qui est bizarre, c'est que quand même, je vis à Paris, moi, encore depuis plus longtemps que Dima. J'ai eu une enfance plutôt heureuse, entièrement au Liban, une adolescence. Et que je n'arrive pas à partir. Nous sommes 40 ans plus tard. Je n'arrive pas à partir. Je n'écris que sur ça. Je n'écris que sur ça, des articles, des romans, des bandes dessinées maintenant, c'est un clou dans mon manteau.
Voilà, Beyrouth est un clou dans notre manteau. Merci à tous les deux. D'une rive, l'autre, de Dima Abdallah, est paru chez Sabine Vespizer. Le génie de Beyrouth, de Selim Nassib et Léna Merlej, est publié aux éditions d'Argo. Cette conversation littéraire était réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Alexandre Dang à la technique aujourd'hui. La préparation en était assurée par Aurélie Marseille. Vous pouvez bien sûr podcaster cette émission sur le site de France Culture ou l'appli de Radio France. Bonne fin de week-end et surtout, bonne lecture à tous.